Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
The baddest mother on the planet.
Hey, je vous invite quoi?
Alexandre Herbinet.
I am the greatest.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 320e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour faire le point avec notre combattant consultant Taylor Lapillus sur sa situation personnelle qui a beaucoup fait parler sur les réseaux depuis quelques jours. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise. Sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur pour RMC Sport, notamment le One Friday Fight. Comment ça va mon Baba Diagne?
Bon ben ça va super, très content de faire celui-ci parce que je pense qu'il y a quelques pendules qui ont besoin d'être remises à l'heure.
On avait des choses à dire et on est content de pouvoir s'expliquer avec Taylor et on est donc ravis de l'avoir avec nous, vous le connaissez sur
moi
RMC
aussi,
Sport.
Les gars, salut les gars.
C'est un retour Baba, en plus, c'est un ancien consultant du RMC Fighter Club qui revient à la maison.
Exactement,
hein.
J'ai été également consultant sur le RMC Fighter Club.
Il a tout de suite vu qu'on avait changé de studio. Voilà.
Donc,
c'est important, toujours continuer d'avancer comme un combattant.
Exactement, ouais, écoute, c'est une bonne évolution. J'ai pas trouvé le plateau, je sais pas où on était.
Voilà. C'est la preuve, le Fighter Club a grandi, mon Baba, et ça fait plaisir. On va donc faire le point avec Taylor sur sa situation. Une info sur les réseaux sociaux et le MMA français s'est emballé. Malgré 3 victoires contre une seule défaite depuis son retour dans l'organisation en septembre 2023, Taylor Lapillus ne fait officiellement plus partie de l'effectif de l'UFC. Et les questions de se multiplier, simple fin de contrat, choix de l'organisation de pas ne renouveler, décision personnelle d'aller voir ailleurs, que privilégier à ce stade de sa carrière entre le sportif et le financier, le combattant français et consultant RMC Sport est l'invité du RMC Fighter Club pour faire le point en détail sur sa situation et son avenir à l'aube de ses 33 ans. Avec une question plus large, l'UFC, plus grande organisation de la planète MMA, doit-elle être le seul objectif pour un combattant?
Allez, il a touché, il a touché encore, il a tiré, il touche en arrière. Le public est en feu dans la cour arrière. Oh, le Jack Ross qui passe, c'est rentré, le bras arrière. La galère qui finit fort, il va prendre ce coup.
Et le Jack Ross qui passe, oui, oui.
L'UFC, c'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur, c'est le choix sportif également.
Oui, le timing.
Allez.
Ah mais lui la pression Taylor.
Et le Jimmy Neutron du MMA, il est surdoué.
Pas mal.
Il comprend tout, il touche.
Surtout il varie ses attaques, regardez, on a vu des coups, des poings, des genoux, des kicks.
Un panel large que nous propose Taylor aujourd'hui.
Officiellement, c'est en fait, je ne suis pas combattant UFC au moment où on se parle. Donc voilà, ça veut pas dire que je vais le redevenir bientôt.
Et merci à Flavien Zolkowski pour cette petite prod. Ça t'a fait revivre les souvenirs de l'UFC Paris.
Ouais, un petit peu.
Quand on entend quand même l'ambiance du public pour la première retour, c'est quand même une dinguerie l'UFC Paris pour vous.
Franchement, et ça, c'est des moments que j'oublierai jamais, tu vois. C'est-à-dire que c'est là, ça y est, c'est ancré dans ma mémoire, dans mes souvenirs. Et ce moment-là, il sera là pour longtemps.
Alors Taylor, vous le retrouvez bien sûr tous les week-ends aux commentaires de l'UFC sur RMC Sport. Petit instant promo, on en profite aussi. Rendez-vous demain matin si vous aimez la boxe anglaise.
Yes,
on demain. Sera avec Baba aux commentaires, on sera au Japon et vous savez combien j'aime la boxe de ce pays-là pour une superbe carte avec Kenshiro Akui, unification WBC, WBA, Flyweight, Olascuaga Kyoguchi pour le titre WBO Flyweight et Iwata Santiago pour le titre WBA Light Flyweight. On va se régaler Baba demain matin.
Ouais, demain 10h. Hein,
10h, RMC Sport 1. Il y a aussi les débuts pro d'un amateur très coté Baba, ouais. Tomayo Tsuboi. On va voir ça, c'est les 4 combats qu'on aura, on va se régaler. Voilà, c'est parti, c'est fait pour l'instant promo, on va repasser sur ta situation Taylor. Donc je disais un peu dans l'intro, il y a quelques jours, on a vu passer cette info sur les réseaux sociaux, confirmée par UFC Roster Watch, qui est un peu le compte qui vous dit qui est encore dans l'effectif de l'UFC ou non. En fait, on se rend compte, Taylor, que c'est parce que ton statut sur le site internet de l'UFC était passé de actif à ne combat plus.
C'est ça.
Alors que techniquement, tu n'étais plus en contrat depuis le 28 septembre au soir. Et le dernier UFC Paris. Pourquoi c'est tombé maintenant à ton effet, tu vois? C'est juste le changement du site qui fait que les gens ont réalisé qu'en fait, tu n'étais plus sous contrat avec l'UFC.
Oui, bah oui, totalement. C'est-à-dire que en fait, je suis plus sous contrat depuis un moment. Et c'est que maintenant que les gens ont réalisé. Parce qu'en fait, c'est une application. Enfin, c'est une application.
C'est automatique.
Si tu veux, c'est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un sort ou rentre, bah automatiquement, ça génère une information. Et en fonction des noms, bon, bah, ça va attirer l'attention ou pas, quoi. Donc, le mien, bon, bah, est sorti avec d'ailleurs d'autres combattants.
Ouais, vous étiez 6, je crois, ouais, dans la fournée à ce moment-là.
Et du coup, bon, bah, voilà, ça fait forcément réagir en France, enfin, chez nous. Et pas que, d'ailleurs, même aux US.
Ce que j'allais dire, si tu regardes les 6 posts de UFC Roster Watch, regarde celui qui fait le plus d'interactions, le plus de réponses.
Ouais,
le plus
si,
c'est largement le tien. C'est même
ouais,
pas
ouais, si, ouais, c'est très largement le mien. Donc après, forcément, beaucoup d'incompréhension pour les gens parce qu'ils se disent « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis beaucoup de gens ne savent pas où j'en suis aussi contractuellement avec l'UFC. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, que samedi dernier, j'ai fait le point pour dire « Écoutez, mon contrat est fini. » quoi. J'ai fait mes 4 combats que j'avais signés. Donc là, mon contrat est terminé. Ensuite, on voit ce qu'on fait. Est-ce qu'on signe un nouveau contrat ou est-ce qu'on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs ? Donc voilà, c'est pour ça que dire « Il est viré », non. C'est quand tu finis ton CDD, t'es pas viré, t'as juste terminé la mission dans laquelle
tu as été embauché. Et il est possible que t'en aies un autre derrière. Là, donc, c'est pour ça qui est cool, c'est que samedi, t'as eu quelques minutes pour le faire, et là, on va prendre bien le temps aussi pour rentrer dans ces détails-là. Juste sur ce moment où il y a eu cette annonce sur les réseaux, j'ai quand même noté un truc, je pense qu'on l'a tous noté, Baba, une vague de soutien.
Ouais.
Énormissime. Ouais. D'ailleurs, des Français globalement, mais même d'étrangers, j'ai vu qu'ils laissaient des messages. C'est incroyable que Taylor soit plus à l'UFC. J'ai vu des combattants. Enfin, il y avait beaucoup de soutien. Comment tu l'as vécu ? Ça fait chaud au cœur, forcément.
Il y a des managers même qui m'ont écrit et tout pour me dire, franchement, je comprends pas, etc. Donc, forcément, ça. Après, moi, j'étais pas dans une situation où j'étais dans le mal, quoi. Tu vois. Donc, du coup. C'est-à-dire que c'est un soutien qui, quoi qu'il arrive, du soutien, ça te fait toujours chaud au cœur, que tu sois bien ou pas bien. Et j'étais pas dans une phase de moins bien, parce qu'en fait, ça s'est passé là, comme ça aurait pu être 15 jours avant ou 15 jours après. Mais malgré tout, voilà, j'ai été particulièrement touché des messages que j'ai reçus. Et pour le coup, très sincèrement, j'en ai beaucoup reçu. J'ai été très surpris même du nombre de messages que j'ai reçus, d'appels aussi, parce qu'on m'a appelé pour ceux qui ont mon numéro. Et forcément, ça fait chaud au cœur, parce qu'on se dit, je suis quand même un combattant que les gens... apprécie un petit peu, même s'il y a une autre catégorie de personnes qui disent il est ennuyant, il fait ci, il fait ça, on n'aime pas, et c'est leur droit hein, d'ailleurs, mais malgré tout t'as quand même aussi une autre catégorie de personnes qui apprécie et ça fait plaisir.
Baba, on a échangé des messages quand on a vu la news tomber. Comment tu peux résumer l'état d'esprit qu'on avait? Quant à l'info brute, tu vois, on a pu discuter avec toi aussi, mais la frustration que tu as sur l'info brute, je sais que Baba, dans nos awards de fin d'année, je crois que tu l'avais partagé d'ailleurs sur tes réseaux à l'époque, il t'avait donné l'awards du combattant qu'il aimait voir combattre à chaque fois que tu étais sur la carte, ça lui faisait plaisir. Et on était hyper frustrés de se dire qu'un combattant avec ton talent, ton palmarès à l'UFC, donc 6-2, 3-1 sur ce dernier contrat, 3-1 sur le premier 7 ans avant, ça nous paraissait tellement dingue que tu sois plus à l'UFC.
Ouais, non, la réaction, y a plusieurs réactions à ce qui s'est passé. La première réaction, déjà, c'est moi, c'est toujours la prudence, la première réaction déjà. Parce que, en temps normal, je sais comment est le milieu déjà en temps normal. Là, encore plus, j'ai un lien direct, quasiment direct. Et je savais que moi, j'avais rien entendu de mon côté. Donc, je dis, attendez, déjà, c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai rien entendu avant que ça sorte. Donc, je crois pas trop que ce soit le cas. Ensuite, de voir cette news qui est partagée par un bot. Un bot, c'est un compte automatique. C'est-à-dire que ça reprend une information, ça va taper dans un site et ça transmet un tweet, en fait. Il y a n'importe qui sait se débrouiller un minimum avec l'IA qui est capable de le faire. Qu'on sorte des articles factuels avec le mot « coupé », moi, ça m'interpelle et ça m'interroge déjà beaucoup. Donc... là, tu passes un petit peu à un petit sentiment de colère.
Des articles, des podcasts, tout ce que tu veux.
Je vais en profiter que tout à l'heure, il est là, parce que c'est des conversations que j'ai eues par message un petit peu. Que ce soit bien clair, Taylor et moi, on s'est rencontrés la première fois cette année. Tu peux le confirmer.
Ouais,
on ne s'était jamais rencontrés avant. Et en plus, comme on ne fait pas les mêmes choses, Taylor et moi, pour un MC Sport, on n'est jamais en même temps, sauf samedi d'ailleurs, ce qui arrive assez rarement. Mais on n'est jamais au même moment ici.
Tous ceux qui suivent bien nos programmes et Sport comprendront, tu es juste devenu la deuxième femme d'Antoine Simon. Taylor était là et puis toi, tu es venu t'installer pour les One Fan.
Donc voilà, on a Antoine en commun. Donc c'est même pas une histoire de je défends mon pote, etc. On vient de se rencontrer. C'est vraiment juste un moment, il faut savoir raison garder, il faut faire attention, surtout quand on a une responsabilité médiatique. Il faut faire attention aux messages qu'on transmet.
Parce que les mots ont un sens, t'as raison.
Exactement.
Moi, entre fin, juste contrat et coupé, il y a une vraie différence.
C'est très important, il faut faire due diligence, il faut faire son travail. Il faut simplement aller chercher à la source une information qu'on peut ensuite redonner. Je voulais simplement refaire le point sur ça parce que c'était important. Maintenant, tu me parles du fan, je comprends pas, comme je comprends pas plein de décisions de ces dernières années à l'UFC. Et puis, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui sont venus au soutien et ça, c'était cool. Et puis ensuite, on a tout un tas de fans. Moi, je les appelle les fans EBITDA. c'est des fans, tu vois, qui apparemment ont toutes les données financières et que du coup, leur moi je comprends pas que ta première réaction quand un combattant qui te donne des bons combats, on te dit il va plus être là, peut-être plus dans la première organisation au monde, ta première réaction c'est de dire ouais mais tu comprends c'est un business et pour le business c'est pas bon, mais qui êtes-vous? Sérieusement, vous êtes, je comprends pas moi. En fait, on regarde du sport, tu vois. Moi, je regarde pas le bilan comptable de l'UFC. Je m'en fous complètement. Je sais qu'ils gagnent, t'inquiète pas, je sais qu'ils gagnent de l'argent bien, et qu'ils en gagnent beaucoup.
Pourquoi c'est pas coupé? Parce que coupé, ça arrive à l'UFC. Il ouais, y a des mecs arrive, qui signent des contrats pour 4 combats et au bout de 2 ou 3 combats, l'UFC vient leur dire ça le fait pas, ça le fait pas, t'es pas au niveau où ça nous satisfait pas tes performances. Donc on arrête la collaboration et le contrat. Là, c'est une fin de contrat, c'est pas un cas de cut. Donc il y a un vrai distinguo entre les deux pour le coup.
Exactement. Et donc, la fin de mon contrat, moi, c'était le 28 septembre.
28 septembre,
j'ai fait
soir,
mon combat.
T'étais hors contrat.
Voilà. Mon run UFC, le deuxième, il était un peu particulier parce que, en fait, le premier combat, déjà, il commence avec un... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un chamboulement pas possible sur la carte. Mmh. Il y avait un combat qui était...
C'est annulé, Yanis finit par prendre William.
Yanis qui finalement monte, prend William. Moi, je me retrouve avec un adversaire sorti de nulle part, etc.
Kaolan Loufran.
Voilà, exactement. Finalement, bon, ça se passe bien malgré tout.
Il avait un peu chauffé la foule.
Et puis, il avait pris le rôle du méchant, donc c'était assez cool. Mais en fait, moi, je revenais à l'UFC pour, entre guillemets, faire des gros combats et clairement quand tu signes à l'UFC en tant que combattant tu sais qu'en tout cas au départ c'est pas l'aspect financier qui va te motiver à signer, c'est à dire qu'on sait tous comment ça se passe, surtout un combattant comme moi, tu vois. Donc je venais vraiment pour le challenge sportif et j'ai la sensation que le challenge sportif je l'ai pas forcément eu, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que
là ça devient intéressant aussi.
Y a pas le,
t'es frustré parce que l'UFC t'a proposé là sur ces quatre combats?
En fait, après, on monte crescendo, donc voilà. Mais sur la fin, sur mon dernier combat, quand je combats contre Cody Stamann, je leur envoie, je sais pas, plusieurs personnes que je pourrais affronter, tu vois, qui sont bien, des noms ou un peu moins de noms, et on me sort Felipe Lima. Tu vois, donc Felipe Lima, c'est un combattant, c'est un très bon combattant, mais que personne connaît.
C'est ça. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que personne sait qui c'est. Vous le savez possiblement parce que bah, vous êtes dans le truc, mais sinon, personne sait qui c'est. Et moi, je me dis, attends, c'est le dernier combat de mon contrat, je le fais à Paris chez moi, et je vais affronter un mec qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Tu vois, l'exposition que tu as sur ton sport, elle passe aussi par les noms que tu vas affronter.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon ranking mondial me donne la légitimité à affronter certains gars, tu vois. Donc aujourd'hui je suis 30e ou 32e mondial sur tous les bantams que tu as sur la planète. Ouais. C'est un ranking qui est pas dégueulasse, tu vois. Donc ça te donne normalement quand même
surtout dans une caté aussi dense que les moins de 61. Ouais.
Voilà, tu vois, donc ça te donne normalement le droit à affronter quand même certains gars qui pour le coup certains sont en plus dans des situations un peu délicates actuellement, tu vois.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Donc ça a du sens. Donc moi j'explique ça à l'UFC en disant écoutez, j'ai proposé 4 ou 5 mecs et on me sort un mec, tu vois que...
Et ils te répondent quoi, eux
donc après, il y a une discussion qui se fait. Non, mais c'est un bon combat, nanani, nanana. Lima est bon. Je sais qu'il est bon et moi, j'ai pas de problème. Enfin, moi, je suis là, de toute manière, pour affronter des mecs bons, tu vois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste... j'aurais aimé avoir un mec un peu différent, quoi, tu vois. Bon, finalement...
Pour être clair, par exemple, à ce moment-là, quand il y a cet épisode-là, toi, dans ta tête, il y a un côté, un moment, de se dire... Mais en fait, je suis juste là pour faire presque le nombre à l'UFC Paris, pour être, tu vois, des soldats français à Paris.
À ce moment-là, ça me saoule.
Mais le reste, on s'en fout.
Tu vois ce que je veux dire ? À ce moment-là, ça me saoule un petit peu. Et donc, surtout que quelques temps auparavant, on m'avait proposé d'affronter Yadong Song, qui lui avait refusé le fight, tu vois. Okay. Donc, du coup, là, je me dis, on passe de Yadong Song à Felipe Lima. Enfin, tu vois, c'est je me suis dit, je manque un truc, tu vois. Et donc, bref. Donc écoute, il se passe ça. Moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis, bah écoutez, de toute façon, moi je suis là pour affronter tout le monde. Et techniquement, je me pense meilleur que beaucoup de la plupart de la KT. Donc vas-y, let's go. On y va pour Lima. Ouais. Le temps passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on t'envoie un contrat, quand tu acceptes un gars à l'UFC, allez, 2-3 jours après, normalement, si le gars dit oui, tu reçois le contrat du combat.
Ouais, c'est rapide.
Tu vois. Non, je te dis vraiment 2-3 jours après, parfois même, c'est déjà arrivé que tu l'aies le lendemain. Tu vois. le temps passe, pas de contrat qui arrive, pas de truc. Je fais cette petite aparté là parce qu'il y a des gens qui, j'ai lu sur internet, des gens dire il a fait refuser Philippe Elima. Je sais pas si, donc c'est pour ça que je reviens sur cette aparté. Et en fait, le temps passe, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Au bout d'un moment, je relance et je dis, les gars, où est le contrat du combat, quoi, tu vois, pour Onyema.
Ah, je me souviens d'ailleurs que, parenthèse, nous, tous les combats s'annonçaient, il n'y avait pas le tien qui était officialisé.
Ouais, ça me faisait du temps. Alors que moi, j'avais accepté, j'ai pris, si tu veux, on me propose le jeudi Lima. Le vendredi, je fais le point en disant, écoutez, c'est pas forcément ce que j'avais demandé et tout machin. La discussion se fait. Le samedi, le combat est accepté. Okay. Donc, jeudi, proposition, samedi, c'est accepté, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, allez, le lundi, mardi, j'ai le contrat. Donc, et là, une semaine, 15 jours, 3 semaines, on arrive sur un mois et demi. Et en fait, je pense qu'il a jamais accepté le fight. Parce qu'après, on me dit, ouais, bah, finalement, il est blessé, tu vois.
Ok. Toi, ouais, je pense qu'il l'a jamais accepté.
Moi, je pense qu'il l'a jamais accepté.
Et
je pense qu'il avait jamais accepté.
Et on t'a fait traîner pendant un mois et demi sans cette réponse-là.
Un fight qu'il voulait pas forcément. Ouais. Je vais pas dire il avait peur ou je sais pas quoi. Attention, hein. Mais je pense que c'est un fight dont il voulait pas et que au lieu de dire tout simplement non, sous la pression entre guillemets un peu de l'UFC qui a dû dire bah si tu prends, surtout qu'en plus moi je dis ouais, enfin je voulais un.
Ouais,
un
finalement, un tu l'acceptes. Nom.
Et finalement, j'accepte. Bah, c'est compliqué de dire ouais, mais lui, il veut pas, quoi. Tu vois, donc ouais, du coup, je pense qu'on a dû essayer de faire un peu pression. Le mec, à la fin, dit bah, je suis blessé. Tu veux lui dire quoi? Tu vois, il dit il est blessé. Tu vas pas lui dire va avec ta blessure. Et donc, du coup, bah, je pense que après, c'est pour ça qu'on va trouver un autre adversaire. Et j'ai mon adversaire 10 jours avant l'événement, je crois. Tu vois, donc ça fait que toute cette période-là, bah, je me demande si je vais combattre. Okay. Tu vois, c'est attends, mais ça va se faire ou pas?
Ouais,
attends,
ça va se faire. Je prépare pas. Lima, mais je suis pas sûr que ce soit lui.
Ouais. Lima, il signe pas. Finalement, bon, c'est pas lui. Ok, on va me trouver un autre gars pendant 15 jours. On ne trouve personne. Enfin, tu vois. Et à 10 jours avant l'event, on finit par trouver quelqu'un. Bref, le combat à Paris passe et tout. Mais j'ai quand même un sentiment un peu pas forcément agréable du truc. Après, moi, je suis que Taylor Lapillus. Ça reste l'UFC. Ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, qu'on se dise. Tu vois, s'ils font ce qu'ils veulent avec les grosses stars de l'UFC, c'est pas avec moi qui représente pas grand chose dans l'événement.
Non, par contre.
Qu'on va se prendre la tête.
On va ouvrir un truc là-dessus. Par contre, ça prouve des problèmes, notamment de matchmaking, que je vois de plus en plus dans cette organisation.
Évident,
pour le
il y a beaucoup de combats qui sont
validés. Énormément de fighters dans le roster aujourd'hui, quand on compare il y a 10-15 ans, c'est plus du tout le même monde. Et ils ont des vrais problèmes à matcher. Bah,
on entend souvent ce que Taylor a raconté.
Ça n'a pas vraiment de sens, ce combat-là, là, de faire Philippe Elie. Même si le mec est très bon, mais par rapport à la progression de Taylor, aux victoires que tu avais déjà sur ce contrat-là, à ton classement mondial, à ce que tu peux viser.
Il y a un sens. Quand tu veux finir le contrat d'un gars et que tu veux pas le garder, moi, tu lui donnes un combat bidon.
Moi, ce que je vous dis, c'est mon ressenti. Après, voilà, il y a des gens qui vont l'interpréter, il y a des personnes qui vont dire mais vous voyez, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient pas de lui, parce qu'il est pas bien, parce qu'il est ennuyant, parce que ceci. Ça, c'est eux. Moi, je vous dis mon ressenti et ce qui s'est passé. J'essaie de vous retranscrire le plus fidèlement possible l'histoire, entre guillemets. Et du coup, le combat passe. Moi, je suis un peu saoulé parce que j'ai passé un camp dans l'incertitude de est-ce que je combats, est-ce que je combats pas. Quand j'apprends qu'il est blessé, il doit y avoir 15 jours qui passent où j'ai zéro news de qu'est-ce qui se passe au niveau des combats. Alors, j'imagine qu'on a dû chercher des mecs, mais en tout cas, je ne sais pas forcément ce qui se passe et tout. Donc, pareil, incertitude encore. À la fin, on finit par trouver un mec et tout, on combat et puis et voilà. Donc, ensuite, je voulais revenir après septembre. Je me dis, bon, vas-y, tranquille, on laisse passer ça. On va se concentrer sur l'avenir.
Ouais. Comment ça se passe, là, une fois que tu es en fin de contrat?
Une fois que je suis en fin de contrat.
Il y a des discussions directes?
Je dis à. J'envoie un mail à Sean Shelby, qui est le matchmaker de l'organisation.
Matchmaker de vos catégories.
Voilà, exactement. Et je lui dis que j'aurais bien aimé revenir pour la fin d'année 2024. Ouais, 2024. Du coup, pour décembre, il y avait plusieurs cartes en décembre. Ouais. Et j'avais envie de combattre en décembre. Comme ça, j'avais fait une année assez productive, tu vois. De là, il me dit que les cartes, elles sont full. Mmh. Il m'explique que les cartes, elles sont full, tout ça, etc. Qu'on va voir comment on fait pour l'année prochaine. Mais qu'en tout cas, pour là, la fin d'année, c'est rempli. Que lui, il est en train de s'organiser avec qu'est-ce qu'il fait au niveau de son roster à lui et au niveau de la catégorie, etc. Donc moi, je dis OK, finalement...
Mais est-ce qu'il y a des discussions contractuelles à ce moment-là?
En fait, si tu veux, à ce moment-là, il n'y en a pas vraiment parce que, du coup, je suis entre deux eaux. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, bon, j'ai quand même envie de continuer à l'UFC. Et d'un autre côté, je fais le bilan de... de mon deuxième passage. Et je me dis, ouais, bof, quoi, tu vois. Donc, du coup, je suis entre deux eaux, mais malgré tout, la continuité, la plus logique, ça reste l'UFC, tu vois.
Mais t'as pas, pour être clair, t'as pas une proposition de contrat sur la table. L'UFC vient pas vers toi en disant...
Ça parle de combat, mais pas de contrat.
Ouais, il n'y a pas un contrat, tiens, tel chiffre pour les quatre prochains combats.
Non, ça parle de contrat, mais pas...
De combat, mais pas de contrat.
Voilà, de contrat, mais pas de combat. Après, entre-temps, je change de management aussi.
Ouais. Je vais y revenir aussi, bien sûr.
Voilà, entre-temps, je change de management.
Pour rejoindre Ali Abdelaziz, le plus grand manager du MMA sur la planète.
Exactement. Ça, c'est en janvier, je crois, ouais. En janvier, je signe avec Ali.
Septembre-janvier, pas de discussion contractuelle précise, concrète, des discussions de combat, mais sans concret.
Si, des discussions de combat, mais pas de proposition, tu vois. Donc moi, entre-temps, je change avant ça de management. Je change de management, ensuite je discute avec plusieurs managers, etc. Et finalement, on se met d'accord avec Ali Abdelaziz. Tu vois. Donc entre-temps, si tu veux, l'UFC, je ne calcule pas trop. Parce que déjà, j'ai envie d'avoir... déjà de savoir avec quel manager avec je vais être, etc., avec qui je vais travailler, et ensuite de reprendre le dossier.
Faire les choses dans l'ordre.
Exactement.
Parenthèse, s'engager avec Ali, c'était aussi de se dire, on sait la puissance qu'a Ali Abdelaziz auprès de l'UFC, c'était aussi se dire, ça renforce un peu
C'est un gars qui, au moment où je prends Ali, très sincèrement, je me dis que ce soit à l'UFC ou ailleurs, ça reste quand même dominant. C'est les numéro 1 aujourd'hui en management.
Il est quasiment matchmaker du PFL. MMA, je peux même enlever le quasiment.
Du coup, je me dis, aujourd'hui, en fait, plus le temps passait pendant cette période-là de... Alors, octobre, je dirais pas vraiment octobre, parce qu'octobre, j'envisageais encore de combattre. Et en fait, plus on se rapproche de la fin de l'année et du début d'année, et plus je me dis, mais en vrai, mais je perds mon temps. Enfin, je perds mon temps. C'est un mot un peu fort, mais je me dis, en vrai, il est temps de...
Ça va trop doucement quand même.
De se poser, de discuter avec...
d'explorer.
Avec les autres protagonistes du game. Quoi.
Ta phrase, avant qu'on se poursuive, ça, elle est intéressante, je perds mon temps. Ouais, parce qu'en fait, ce que tu as dit tout à l'heure là aussi, où tu appelles début octobre et qu'on te dit toutes les cartes sont full jusqu'à la fin de l'année, c'est un vrai problème. Pareil, Baba. On l'avait calculé. Si tu calcules le nombre de combattants dans le roster de l'UFC et le nombre de cartes qu'il y a à l'année, c'est même pas 2 combats en moyenne par an pour chaque combattant qui est disponible, en fait.
On touche du doigt le gros problème.
On a un vrai problème là-bas.
Après, c'est aussi le problème
c'est devenu trop un monstre, l'UFC.
Du Contender Series, où ils recrutent beaucoup de gens du Contender Series. Ils recrutent des gens du TUF. Du coup, forcément, plus les gens qui sont recrutés en dehors de tout ça,
il n'y en a plus beaucoup, d'ailleurs.
Ça fait beaucoup de combattants. Et limite, à terme, la plupart des combattants arriveront par le Contender Series et tu auras quelques signatures qui se font en dehors ou sur des short notices, c'est ce que ça se fait encore. Mais
en fait,
sinon,
le vrai problème, il est là.
Ça fait beaucoup de combattants à qui il faut donner des combats. Donc moi, si tu veux, quand au mois d'octobre, il me dit les cartes, après, c'est dans ma caté de poids, tu vois.
Bien sûr.
En bantam, elles sont full. Je suis pas forcément surpris. Si tu prends une moyenne de combats de bantam sur une carte, il doit y avoir 2 combats de bantam. Après, tu as certaines cartes où il y en a un peu plus, mais globalement, tu dois avoir 2-3 combats à 61 kilos. Donc, tu vois, tu fais vite le tour des cartes quand tu sais le nombre de bantam que tu as dans ton roster, quoi. Donc, si tu veux, ça me surprend pas. Mais en fait, c'est que cette attente-là, si tu veux, plus le fait que je sois en fin de contrat fait que tu commences à te poser des questions, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu commences à te dire, mais en fait, tu fais le bilan, tu te dis, je ne suis pas forcément très content, le financier n'a pas forcément suivi.
Le sportif, finalement, non plus.
Le sportif, finalement, non plus. Et c'est moi, mon moteur, il est là, c'est le sportif. Tu vois, c'est pas le financier, c'est le sportif, mon moteur. Donc, voilà, à l'heure actuelle ou au moment où je te parle, je sais toujours pas où est-ce que je vais aller. Là, je fais un bond un peu dans le temps
On va parler aussi de est-ce qu'il y a des propositions sur la table des choses. Cette période que tu as vécue, je sais pas si tu as entendu dans l'intro que nous a préparé Flavien, il y avait cette phrase qu'on a tirée d'une interview de toi pour Canal Plus Afrique. Tu dis l'UFC, c'est le choix du cœur. C'était au moment de ton retour.
Ouais.
Est-ce que cette période-là, elle fait pas basculer du cœur à la raison?
Possible. C'est-à-dire que moi, en fait, si tu veux, en septembre, ça se finit. Je me dis, OK, vas-y, ça y est, c'est reparti et tout. Et en fait, plus le temps passe et plus je commence à me... C'est vraiment la fin de contrat. C'est-à-dire que je suis en fin de contrat et je me dis, bah, finalement, je suis free. Je peux discuter un peu avec qui je veux. Là, j'ai le droit, contractuellement. Les organisations aussi ont le droit, contractuellement, de discuter avec moi. Et je me dis... et en fait, je vois que bah, t'intéresses, qu'il se passe des trucs, tu vois. Et du coup, je me dis, mais... En fait, enfin, tu vois, finalement, il y a d'autres solutions, il y a d'autres pistes, il y a d'autres combattants qui prouvent que l'UFC n'est pas une fin en soi. Je pense à Salah, je pense à Baki, je pense à Cédric, même si c'est des profils différents du mien, mais malgré tout, ça y est, plus ça va et plus on voit que l'UFC n'est pas une fin en soi. Et donc, je me dis, si il n'y a pas une vraie logique sportive, et bah, tu vois, en vrai, autant que j'aille combattre ailleurs, tu vois.
En fait, moi, dans cette affaire, c'est ça qui est le plus, plus important, c'était de prendre les deux positions en compte. Moi, je veux bien qu'on m'explique, encore une fois, que Taylor, comme son style il est un peu ennuyeux, bah, il fait pas gagner d'argent à la boîte et que du coup, c'est logique. En fait, si tu voulais avoir cet avis-là, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je provoquais un petit peu. Mais en vrai, chacun son avis. Mais on peut aussi partir du sens inverse où on se dit peut-être que le combattant ne s'y retrouve pas. Parce que, un, c'est compliqué, visiblement, d'avoir une vision claire. Tu me dis septembre, tu veux combattre en décembre, on te dit on ne sait pas. Et c'est full, en fait. Donc déjà, tu n'as pas de visibilité avant 5 mois. Pour pouvoir combattre, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas que tu as une date en janvier. C'est on verra en janvier, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc déjà, tu ne sais pas, sachant que tu es en fin de contrat. Et le traitement que tu as eu pendant que tu étais en contrat, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose et tu t'es repris tout de suite derrière en disant moi je perds mon temps, et après tu dis que c'est un peu fort, mais en fait c'est pas fort, parce que si tu avais 22 ans,
je verrais pas les choses pareilles.
T'as un petit peu plus de temps.
Très clairement.
T'as 32 ans, c'est pas la même chose.
Voilà, 32
ans,
33 début avril. Donc ça approche. 33 début avril, et je sens que je suis dans mon prime.
Donc on fait
tu vois ce que je veux dire. Et en fait, là, mes bonnes années, les années où je suis le plus fort, où je suis le plus. Enfin, c'est là maintenant.
Non, c'est maintenant.
Tu vois ce que je veux dire. Et cette période-là, elle dure pas 107 ans, quoi. Tu vois, elle est là maintenant. Donc si je les ai pas à l'UFC pour pouvoir affronter les meilleurs de la division, ça sert à rien, parce que du coup, ça, là, oui, c'est une perte de temps. Autant que mon prime, je le passe ailleurs à affronter des gars, tu vois. Et donc, si tu veux, il y a eu cette réflexion-là de peut-être et tout, machin. Après, je signe avec Ali. Là, il y a des vraies négociations, du coup, qui démarrent avec que l'UFC, qui sont d'ailleurs plus ou moins toujours en cours.
Tu as une proposition concrète sur la table aujourd'hui de l'UFC pour un contrat de multi-fight?
Alors, il y a des propositions, ouais. Et pour le moment, je faut que ça évolue, parce que
elle n'est pas satisfaisante.
Non, pas vraiment, tu vois. Donc
il y a d'autres propositions, d'autres organisations aussi concrètes, avec des chiffres concrets.
Ouais, il y a plein de ça m'a surpris, ça, d'ailleurs. Ouais. Mais il y a plein d'organisations, Après, on connaît toutes les organisations majeures.
En gros, tous les players, ils sont venus.
Mais tous les acteurs ont été là.
Internationaux comme français.
Ouais. Ares, c'est pas positionné.
Hexagone, oui.
Ares, c'est pas positionné, mais sinon, oui, tout le monde est là, quoi. Tu vois. Après, je suis pas surpris. Encore une fois, je suis pas un retraité, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est,
là, je suis dans mon prime. Sur le classement mondial, je suis plutôt bien, etc. Et tout. Donc, j'ai 21-4 en record. Donc, c'est le moment où les choses se passent. Donc, voilà, il y a plusieurs organisations qui m'ont approché. Et là, on est au stade où on voit ce qui est le mieux. Après, bah, tu as toujours le choix du cœur et le choix de la raison. Nous, dans l'équipe, on est plusieurs. Moi, même si c'est à la fin, c'est moi qui décide, mais malgré tout, je prends toujours en considération ce que me dit le reste de mon équipe, de ma famille, etc. Et tout. J'en parle beaucoup d'ailleurs avec un de mes plus proches conseillers, qui est Eric Cara, mon préparateur mental. Ouais. Et du coup, ben, voilà, on réfléchit à ce qui est le mieux. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, tout est encore possible. Si les choses évoluent positivement avec l'UFC, pourquoi pas. Mais c'est peut-être pas forcément ma préférence du moment. Voilà.
La tendance irait pas à l'UFC pour l'instant?
Ouais, pour le moment, ouais, clairement.
C'est quoi les... Je sais qu'on a du mal en France à donner des chiffres précis, donc tu les donnes si tu veux, mais si tu les donnes pas, je le comprendrai. Mais c'est quoi le grandeur de différence entre la plus grosse proposition que tu as et celle de l'UFC?
Bah, il y a une vraie diff. On est
fois 4-5.
Alors peut-être pas autant, mais on est sur du facile fois 3, presque fois 4, quoi. Tu vois.
C'est Baba, enfin, je le dis souvent. Qui refuse fois 4 dans son job?
Donc bah, apparemment plein de gens sur internet.
Non mais non mais et franchement voilà, tu vois, c'est ça l'ordre de différence. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, si moi aujourd'hui et encore une fois, j'ai jamais mis l'argent d'abord. Maintenant, il y a une réalité économique. Ça compte, tu vois.
C'est du price fighting.
J'ai jamais mis l'argent
ici.
D'abord. Ce que j'ai toujours mis en avant, c'est les oppositions que je vais avoir et surtout l'activité que je peux avoir. Tu vois, je suis pas un jeune fighter qui rêve encore de l'UFC avec des yeux qui brillent en se disant c'est génial, c'est super, je vais avoir mon fight kick.
Ouais, ça, tu
c'est quelque
plus.
Chose que j'ai fait, que je l'ai fait à l'ère de Reebok, j'ai fait l'ère de Venom. Donc aujourd'hui, je réagis aussi factuel en prenant en compte l'historique et le possible futur, tu vois. Et là-dessus, aujourd'hui, je pense pas que enfin, en tout cas, là, tout de suite, je suis pas sûr de m'y retrouver.
Mais je vais être provoque même, mais si la proposition financière est 3 à 4 fois moindre, si, et tu l'as vu dans ce dernier contrat là que tu as eu avec eux, tu vois que ça vivote un peu sportivement, qu'on ne propose pas les challenges que tu veux. Tu vois que toutes les autres orgas qui t'ont fait des propositions, elles viennent en France aujourd'hui. Elles font des gros événements dans des grosses salles où tu vas être mise en avant avec des chaînes de télé comme la nôtre, par exemple, qui diffusent tout ça. C'est quoi l'intérêt de rester à l'UFC, Taylor ? Est-ce qu'il y en a un vraiment, à part le prestige de dire « je suis à l'UFC » ?
Ouais, mais le prestige...
Et ils ont gagné, parce qu'ils ont réussi à construire ce mythe-là.
Et tu sais, ils sont tellement forts que...
Mais c'est quoi le seul intérêt, sinon ?
On confond le sport... Et le nom de la ligue.
Bien sûr.
Tu vois, donc, le quoi qu'on en dise, alors, ça tend à changer, mais il y a encore quelques temps, n'importe quel gamin qui commence le MMA te dit je veux signer à l'UFC. Tu vois. Après, là, on a une nouvelle génération de petits qui arrivent, là, qui ont 18, 19, 20 ans, qui te disent moi, je m'en fous de pas aller à l'UFC. Ouais. Si je n'y signe pas, je m'en fous. Moi, l'objectif. Bah c'est de faire de l'argent, tu vois. Donc après, est-ce qu'ils ont raison? Je sais pas. Je pense qu'il faut toujours malgré tout avoir l'œil sur le challenge sportif, et en vrai de l'argent on a le temps d'en gagner, tu vois. Mais moi j'arrive dans un moment de ma carrière où bah là faut faire des choix qui sont réfléchis, des choix intelligents, parce que quoi qu'on en dise, je suis plus proche de la fin que du début. Donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Le MMA, c'est un sport qui a animé toute ma vie. Je veux faire ce sport depuis 2001. Enfin, donc j'avais 9 ans au moment où je me suis dit je veux faire ce sport. Donc si tu veux, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire des choix qui sont réfléchis.
T'as raison
et
sur
qui
les jeunes.
Bon sens.
Baba, je te donne la parole.
Pour continuer, parce que Alex il est un petit peu aussi parti légèrement sur la controverse à l'heure, mais pour parce que depuis le début de l'émission, on est à charge sur l'UFC, et c'est un peu normal parce que les gens nous connaissent, ils regardent l'émission. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est simplement qu'il faut dire les choses comme elles sont.
Qui aime bien châtie bien.
Il faut toujours aussi se regarder dans un miroir, et tu le sais très bien. Est-ce que tu penses toi que sur ce run là, t'aurais pu faire quelque chose de mieux?
On peut toujours faire mieux. C'est-à-dire
Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit si j'avais fait ça là, je pense que je resterai et qui me proposerait mieux que ça?
Ben, je pense qu'on peut toujours faire mieux. C'est-à-dire que là, je vais te dire ce que les haters derrière leur écran vont dire. Ouais, bah, s'il avait mis 4 KO, oui. Mais c'est très facile à dire, et à faire, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu prends un ratio du nombre de finishes qu'il y a dans ma KT, finalement, il n'est pas si élevé que ça. Parce qu'à haut niveau... Bah déjà, c'était pas toujours facile de gagner, déjà. donc, de aller... en fait, les gens négligent ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on se disait, tu signes à l'UFC, c'est ouf de signer à l'UFC. Ouais. Et même le Bellator, à l'époque du Bellator, si tu signais au Bellator, c'était quelque chose de ouf.
C'était l'organisation américaine.
C'était vraiment incroyable.
Bah, bien sûr.
Après, c'est devenu normal de signer à l'UFC. Mm-hmm. Ensuite, si tu gagnes à l'UFC, c'est ouf. Après, c'est devenu normal de gagner à l'UFC.
Donc, il faut gagner avec un finish maintenant.
Et maintenant, si tu ne gagnes pas avec un finish, t'es nul, t'es surcoté ou t'es je ne sais pas quoi encore.
Donc, on rappelle ce qu'on a souvent dit ici, il y a trois manières de gagner au MMA.
Toujours.
KO, soumission ou décision. Bah oui. La décision, elle n'est pas moins belle que les deux autres, en vrai.
Et ensuite,
elle est
moins
spectaculaire.
Et bientôt, on va rentrer dans une nouvelle ère. Là, on n'y est pas encore, mais ce sera... Bah, si tu n'es pas champion de l'UFC, t'es pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois champion UFC. Et là, on peut dire, ouais, lui, c'est un grand champion. Tu vois ce que je veux dire?
C'est le public français, donc, ça?
Ouais, c'est beaucoup le public français. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand il y a eu l'annonce de l'UFC, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, alors il y a eu une grosse partie, bien entendu, qui était en mode, ouais, ça se fait pas, machin, c'est pas normal, etc. Oui. Et une autre partie qui m'a écrit. Mais j'ai vu plus de commentaires français dire, bah c'est normal, je vous l'avais dit, français que américain. Oui, je sais pas si vous voyez le délire. C'est-à-dire qu'aux US, ça a dû scandaliser 90% des gens qui ont commenté. Et en France, t'as un bon pourcentage, t'as possiblement peut-être 40% des gens qui disent, je vous l'avais dit, c'est normal.
C'est normal, tu sais, et de toute façon, vois,
c'est ouf.
Il veut pas finir.
T'as un combattant de chez toi qui est français. Et le premier truc que tu te dis, c'est « Ouais, c'est normal. » Tu vois, si ça se trouve, moi, je suis là, je suis dans le mal et tout. Tu vois, heureusement, ce n'était pas le cas. Mais si ça se trouve, je suis au fond du gouffre et tout ça, etc. J'ai limite envie de sauter par la fenêtre. Et les mecs, ils vont te dire « Ouais, c'est normal. » Il l'a mérité.
Va regarder, il y a quelques semaines aussi, les commentaires quand il y a eu la victoire de Wiley Zhang et que les gens disaient « Pourquoi pas qu'on mette Wiley face à Valentina à la place de Manon ?» C'était le public français qui était le plus en mode hey, c'est Wiley, hein. Elle met, c'est du business, c'est elle qui va prendre la place. C'est elle qui
va prendre la place. Qu'est-ce que vous connaissez au business?
Et je voyais des commentaires des Américains qui disaient les gars, Manon, c'est elle qui mérite le title shot, on verra Wiley après. Des fois, tu te dis ouais, nous, ici, on est.
C'est des vrais experts qui te disent, qui parfois te disent on comprend pas tel choix, on comprend pas tel move, on comprend pas tel truc. Et t'as un mec qui connaît le sport depuis un an ou deux, tu vois. Et qui te dit c'est une histoire de business.
En l'occurrence, on a eu des Luc Thomas, qui est un analyste respecté du game, qui comprenait pas quand il y a eu la news qui est sortie sur Twitter. D'autres médias spécialisés qui comprenaient pas aussi. Ce sont des médias spécialisés dans le game depuis 30 ans. Maintenant, je dis toujours que les avis peuvent se valoir. Il y a pas de problème, parce que justement, il y a une pluralité. On est tous là pour donner son avis. Simplement, il faut savoir raison garder sur certaines choses. Et là. Pour ceux qui pensent ça, on est dans le faux. On a un champion et il a des qualités exceptionnelles. Hein. Attention, parce qu'il a un cardio de malade mental, il court partout. Et puis en plus, il fait du parapente sur ses vidéos Instagram. Tu vois, c'est génial. Ouais, c'est le champion de la catégorie, en l'occurrence, de Valijivili. Mais sur ses 12 derniers combats de Valijivili, il a gagné une seule fois avant la limite. Et pour pouvoir arriver aux combattants d'élite qu'il a battu derrière, il faut bien que tu commences ta série contre des combattants qui ne sont pas élites. Et ces gars-là, il ne les a pas battus avant la limite non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, Merab, il est dans un camp avec un coach qui apprécie l'UFC, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en coulisses, et c'est pas simplement le dire. Il y a un mec qui vient dans la cage, il a gagné par finition, c'est cool, on va le faire avancer. Il a pas gagné par finition, c'est cool, il va pas avancer. Je rappelle que Tony Ferguson, il a jamais challengé pour le full, pour le titre complet.
C'est trop simpliste comme analyse.
Il y a un moment, il faut aussi prendre beaucoup de choses en compte dans l'analyse. J'en parlais avec un pote juste tout à l'heure, qui me disait, il donne son avis, tu vois, il me dit, mais tu comprends. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas intégré le top 15 Taylor. Mais le problème, c'est que quand on passe ton temps à te donner des mecs qui sont super forts, parce que je suis désolé, Bacharat, il est top 10. Aujourd'hui, tu le mets contre un top 10, probablement qu'il gagne contre une grosse majorité de ces gars-là. Il y a plein de mecs, surtout dans cette catégorie bantamweight, qui ne sont pas dans le ranking, qui ne sont pas dans le top 15, mais qui ont largement le niveau du top 15. Ouais. Ça veut dire que, comme on le dit toujours, tu vas avoir un top 15 et ces mecs-là, ils vont se battre pour ne pas perdre le ranking. Donc quand ils vont avoir des propositions arrivées, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai souri quand tu m'as dit Song Yadong. Ça m'a fait sourire parce que je sais ce que c'est. Les mecs, ils voient, il est dans le ranking, il est son truc, il se dit, on lui dit Taylor Lapillus. Le mec il dit ah,
non, ils s'affrontent.
Je me suis pris la tête pour arriver dans le classement, tu me donnes un mec comme ça. Bah, non, je vais pas prendre, tu vois.
Ils s'affrontent entre eux. C'est-à-dire qu'ils restent entre eux et ils s'affrontent entre eux. Mais tu sais que si tu regardes le top 15 ou le top 10, mais moi je te dis, un fight, deux fights, et naturellement je suis dans ce classement là parce que quand tu regardes le classement mondial qui compte également, c'est à dire qu'on prend en compte le classement mondial et que tu retires les combattants hors UFC, bah je suis top 20. Tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que je suis top 20 quoi. Donc au bout d'un, donc tu gagnes, tu fais un fight, deux fights, bah naturellement tu finis par intégrer ce top 15. Donc en vrai, c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas loin. Maintenant, il faut que l'UFC le veuille aussi. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'opportunité. Et tu es dans une organisation où il y a une logique sportive, mais il y a aussi, est-ce qu'on a envie de te faire avancer et comment on a envie de te faire avancer.
C'est qu'en fait, tout ça façonne les classements en plus.
Bien sûr.
Parce que si l'UFC, selon les adversaires que donne l'UFC, le rythme de combat qu'il te donne aussi, bah, tu vas monter plus ou moins vite dans ces classements-là.
Bah, bien sûr.
Donc c'est eux qui façonnent ça aussi.
Et d'être avec tel manager et de faire que tu vas avoir un besoin sur telle carte, sur tel event, ça va faire que tu vas avoir plus d'opportunités de combattre que certains où tu ne vas pas servir à grand-chose. Là, tu as l'impression qu'on a l'UFC Paris et que ça sert leur business, oui. Ils se disent c'est cool parce qu'à chaque fois qu'on vient à Paname, on fait full. tu vois. Mais après, ils se disent, bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça, par exemple, qu'on n'était pas content de voir un William Gomis qui est sur une belle série de victoires faire un combat à l'Apex. C'est pas quelque chose, même si William te dit que c'est cool pour lui,
moi, sur le terme sportif, tu vois. C'est plus l'adversaire qui m'a surpris. C'est-à-dire que je me dis, il passe de Brito à Hilder Amil.
Aussi.
Enfin, c'est. Ouais. Tu vois,
pareil, sur le match de King, il devait prendre Jean Silva, mais ça s'est pas fait. Derrière, on lui donne Brito. Et qu'on me dise pas qu'on lui donne Brito pour que Gomis y gagne.
Non, bah
tu
non.
Tu vois ce que je veux dire.
Et Taylor, t'as raison. Où est le gain avec Amil?
Tu vois, c'est-à-dire qu'il passe Brito et on lui met Amil. Après, voilà, j'ai pas envie d'être à charge sur l'UFC parce que ça va sonner comme une espèce de...
Non, et puis qu'on soit clair.
De challenge sportif, t'as raison. De vengeance, etc. Et
c'est vraiment, là qu'il y a les meilleurs combattants au monde.
C'est pas le cas, voilà. Moi, je pense que c'est là que ça se passe.
C'est la Champions League.
Je pense que les meilleurs sont là.
Oui.
Je pense qu'ils ont un monopole aujourd'hui qui est assez fort, qui fait que ben, tout le monde a envie d'y aller. Mmh. Et je pense que, in fine, quand tu es là-bas, c'est quand même là-bas où tu vas gagner le plus d'argent. Si on parle d'argent, c'est quand même là-bas que tu vas gagner le plus d'argent. C'est-à-dire
donc
que
grâce à l'argent périphérique.
Aujourd'hui, non. Alors, il y a l'argent périphérique, mais je pense qu'aujourd'hui, l'organisation qui peut te rendre millionnaire,
c'est
l'UFC. Ouais. Tu vois. Après, il faut que tu aies accès à la ceinture.
Oui.
Il faut que. Voilà.
C'est in fine, ça, comme tu l'as dit.
Ça passe
in fine,
par là,
tu peux y aller.
Alors qu'il y a des organisations, une fois que tu as fini le jeu, bah, tu ne seras pas millionnaire. Tu gagneras très bien ta vie, mais tu ne seras pas forcément millionnaire. Tu
atteindras une sorte de plafond de verre.
Le plafond de verre de l'organisation.
Ouais.
Là, eux, tu peux devenir millionnaire.
À l'UFC, en vrai,
il y a des opportunités. C'est l'Amérique in a nutshell, comme ils disent. C'est l'Amérique, mais réduit à une cage.
Et en fait, il n'y a pas de plafond de verre chez eux. C'est-à-dire que Conor McGregor, quoi.
Voilà.
Si tu vas au plus haut du plus haut que tu peux, tu deviens le mec.
Tu peux.
Il a été le sportif le mieux payé au monde pendant une année.
C'est une perspective qui attire encore beaucoup d'athlètes. Mais comme tu l'as dit la semaine dernière, pour combien de temps?
À voir aussi. Et c'était intéressant parce que tu ouvrais un truc et on va voir est-ce que ça confirme ou ça infirme ces choses-là. Mais on dit souvent, bah, si t'es à l'UFC, les sponsors, ça va arriver derrière et
non,
tu vas pouvoir bien manger.
Ça,
vas-y, réponds-moi à ça parce que j'ai envie de briser le mythe. Tu savais
non,
où j'allais.
Ça, c'est totalement faux. C'est pas vrai du tout. Peut-être que ça l'était avant parce que déjà, tu pouvais mieux représenter tes sponsors.
Tu pouvais les mettre sur les shorts,
sur tes shorts, tes t-shirts, tes badges, etc. Là, tout ça, ça a été interdit. Donc, du coup, tu peux plus le faire. Et t'as quelques combattants qui, oui, ont des sponsors et l'UFC est venu parachever tout ça. Je pense notamment à un combattant comme Morgan, par exemple, mais qui avait déjà des sponsors avant. Tu vois ce que je veux dire? Après, l'UFC, ça met un coup de boost supplémentaire et qui fait que ça va lui rapporter plus de sponsors ou de followers, etc. Mais c'était déjà, il marchait. C'était un produit qui fonctionnait bien avant l'UFC, tu vois. Mais si tu te dis que tu vas signer à l'UFC et que tout d'un coup, par magie, les sponsors vont arriver, non, c'est faux. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, tu as même des sponsors qui, eux, veulent être vus pendant l'événement.
Exactement.
Comment tu fais pour être vu
comment
par l'événement
avec
l'UFC? C'est impossible, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire aucune promotion, aucun truc d'un sponsor ou autre, sauf un sponsor de l'UFC.
Ouais.
Monster, Crypto et je ne sais plus, plus quoi.
Et d'ailleurs, il y a des athlètes qui signent avec les sponsors de l'UFC, comme ça, ils peuvent mieux représenter.
Là, tu peux. Mais sinon, tu ne peux pas. Donc ça, il faut vraiment faire attention avec ça, parce que ça, c'est un vrai mythe de se dire tu arrives à l'UFC et tu auras des sponsors. Non, c'est ce qui dépendra de tes sponsors, c'est la visibilité que tu as, c'est l'image que tu as.
Je vais te faire un cas d'école.
C'est tout ça.
Si une, je mets aucun orga, aucun nom direct, mais si une orga te propose 100K, 100 000, flat, que pour combattre, pas de bonus de victoire, 100 000 pour un combat, et que l'UFC te propose 30 plus 30, donc 60 000 si tu gagnes, est-ce que ton sponsoring, parce que tu es à l'UFC, compenserait?
Non, bah non.
L'écart, pas du tout.
Non.
Ok. Donc pour moi, c'est clair. Oui.
Non, je te. On est d'accord. Hein.
Non, parce que c'est un mythe qui perdure quand même à se dire quand ils sont à l'UFC, il y a tellement de lumière que tu vas pouvoir.
Non, mais attends, on parle avec les combattants. On a des combattants. Des combattants UFC, on en a plusieurs, donc tu parles avec eux et tu sais. Aujourd'hui, il y a des combattants qui, oui, gagnent de l'argent avec les sponsors en France, qui gagnent confortablement, en tout cas, je pense, parce que je ne suis pas dans leur compte en banque, mais de l'argent avec les sponsors, mais ils ne sont pas beaucoup, tu vois. Ils ne sont clairement pas beaucoup. Donc après, ça va vite. Hein, tu parles avec les sponsors, les combattants UFC, et tu leur demandes est-ce que depuis que tu as l'UFC, tu trouves que les sponsors ont afflué, quoi. Et tu verras qu'ils diront oui ou non, tu vois. Maintenant, ça peut changer quelque chose, c'est sûr, parce que l'UFC, malgré tout, ça parle à tout le monde, quoi, tu vois.
C'est une marque.
C'est comme quand tu dis la NBA, quand tu dis
la Ligue des Champions,
la Champions League, etc.
C'est quelque chose d'être à l'UFC,
ça,
vraiment.
Ça parle à tout le monde. Et
ça joue dans ta tête le prestige, dans la tête d'un combattant.
Ouais, bien sûr.
De se dire, je fais la Ligue des Champions, quoi.
Bien sûr. Quand t'es combattant, t'as envie d'être le meilleur, t'as envie de tout ça, tu vois. Donc même s'il y a des choix après à un moment donné que tu vas faire qui sont plus logiques que passionnels, malgré tout, tu vois, là aujourd'hui, je sais pas ce qui va se passer, quelle sera la fin de ce feuilleton, tu vois. Il y a plusieurs offres qui sont sur la table, on discute avec un peu tout le monde et on verra ce qui va se passer, et je sais pas quelle en sera la finalité. On sera fixé très très bientôt, je pense. Mais voilà, si tant est que je retourne pas à l'UFC un jour, je vais être honnête. Oui, de temps en plus, je le commente, tu vois. Oui. Donc oui, de temps en temps, je vais me dire, mais ce mec, je le bats. Mais lui, truc. Tu vois, tu auras toujours ce petit truc dans ton cœur de te dire,
toi, t'es même pas dans une position d'oublier.
Lui, tous les samedis,
t'es
je suis dedans, tu vois. Donc j'aurai toujours ce truc.
Je sais pas s'il y a un mec dans le monde qui aura quitté deux fois une boîte, commentera toutes les semaines.
C'est mon profil, il est atypique.
C'est unique,
en vrai,
c'est
tu vois.
Unique comme profil.
Et donc, du coup, j'aurais possiblement ce truc-là. Je vais pas te mentir, tu vois, parce que bah tu vois les mecs, tu te dis, mais lui, je le passe, tu vois. Donc il y aura possiblement ce truc-là. Mais je pense qu'il faut...
J'ai une question par rapport à ça, d'ailleurs, que je voulais poser. C'est tant mieux que t'en parles, parce que sinon j'aurais oublié. Parce que t'es même un cas quasiment unique, je crois, dans le monde, d'avoir commenté l'event dans lequel tu as combattu. C'est pas quelque chose qui est quand même banal. Déjà, ma première question, c'est est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Est-ce qu'ils en avaient conscience? Bah, ma deuxième question, du coup, c'est pourquoi ils ont rien fait du tout pour le mettre en avant?
Je sais pas.
Ils t'en ont pas du tout parlé, y a pas
je
eu...
sais pas. Nous, on en a parlé ici. RMC l'a mis en avant parce que bah, c'est un truc un peu unique. Aux US, j'ai vu plusieurs personnes en parler, mais c'est vrai que l'UFC n'en a pas forcément parlé. Après, c'est est-ce qu'on a envie de te promotionner ou pas? C'est toujours pareil. C'est est-ce qu'on a envie de pousser un peu sur ton nom ou pas, tu vois.
En fait, c'est le cas de figure. C'est pour ça qu'on en revient toujours à la même discussion. C'est de se dire que là, tu as eu deux runs différents, de 3 et 1. Tu as eu un run où c'était pas l'UFC de l'opulence en termes de combattants. Ton premier run, c'était pas tout le monde rentre à l'UFC. C'était pas comme ça. Le premier, c'était waouh, t'as signé à l'UFC, c'est un truc de ouf. Déjà, il faut faire tes combats. Toi, Mika, quand vous avez signé, c'était waouh, on était habitué à avoir un Français à la fois. Ouais. On a eu Congo et Diabat en même temps, c'était un truc de ouf. Et ensuite, derrière, on a commencé à avoir. Et ton deuxième run, c'est complètement différent. T'as plein de combattants européens qui signent, c'est devenu beaucoup plus démocratisé ici. Ouais. Et puis surtout, on est dans une ère où t'as un minimum de champions américains. La plupart des champions sont étrangers.
Maintenant, bah, t'en as qu'un là en ce moment.
Il y en a qu'un seul. Et c'est celui le moins actif. Donc on est vraiment sur une ère complètement différente. Et c'est pour ça que je me dis, par rapport à ces situations-là, on n'est pas comme si on était dans une situation où. T'avais fait tes 4 combats et tu réclamais quelque chose qu'on te donnait pas, donc on te coupait derrière. C'est pas ça. C'est en fait que là, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé la question, je t'ai posé est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que t'as pas fait que t'aurais dû faire. Là, une fois que t'as fait 2 runs de 3-1 à l'UFC et que tu vois des combattants qui ont des runs moins bons que ça mais qui restent, qui vont continuer à combattre, est-ce que la décision elle est déjà pas.
Je sais pas,
même si t'as toujours cette aspiration de Champions League, dans la meilleure ligue.
Il y a une grosse dualité, comme je te dis, entre oui, j'ai envie, et ouais, mais non, tu vois, c'est difficile.
Il y a deux Taylor qui se battent dans la tête.
Il y a deux Taylor qui se battent, il y a le Taylor qui dit, mais dis-leur un truc pas gentil, et il y a l'autre Taylor qui dit, ouah, mais c'est l'UFC quand même, tu vois, c'est un truc de ouf et tout. Donc il y a ce...
Malgré ça, il y a tout ce Taylor-là, il est encore là pour l'instant.
Il y a ces deux Taylor, tu vois, et 3-1, c'est un bilan honorable, alors je l'ai fait x2, et t'as des combattants qui combattent, que moi je les vois, et en plus, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que t'as plein d'experts, mais la vérité, c'est que je vais pas me proclamer expert de MMA, tu vois. Mais pour le coup, les gars que je commente, je les vois, tu vois. Donc je vois le gars qui est sur deux défaites, qui a 1-3,
et qui re-signe et qui machin et qui continue de combattre. Je vois le gars qui fait que des décisions. Je vois le gars qui, tu vois ce que, donc en fait, je vois plein de profils différents et les gens ils disent ils sont concentrés sur ce qu'ils voient en France ou les gros noms. Mais non les gars, regardez tout le roster. Tapez-vous autant de combats. Enfin, je commente 10 combats tous les week-ends quoi, de l'UFC fois par tant d'années, tu vois, donc les encore une fois les profils j'en vois plein et donc en fait c'est de dire enfin voilà tu penses, quand tu penses savoir c'est là que tu te rends compte que tu sais rien.
Ça ouvre un débat aussi plus global, on voulait finir sur ça Baba, mais cette idée de, et c'est normal, c'est la Ligue des Champions, c'est là où les meilleurs combattants sont au monde. Je comprends totalement que sportivement, tous les combattants de la planète veulent finir à l'UFC, veulent finir avec la ceinture, la belle ceinture au milieu de l'octogone. Maintenant, dans un cadre comme, notamment en France, et je pense que l'exemple français en plus est très, peut être différent d'autres. La France, depuis qu'on a légalisé le MMA, ce truc, il a explosé.
Oui.
Il y a beaucoup d'organisations. Tu citais Arès ou Hexagone tout à l'heure, Taylor. On voit bien que le KSW, leur deuxième pays, c'est quasiment devenu la France. Enfin, c'est en termes de gros événements qu'ils veulent faire, ils veulent revenir plusieurs fois par an. Le PFL, idem, est revenu, a fait un carton avec Baki Doumbé et s'est rendu compte à quel point on avait du potentiel. Est-ce qu'en France, on n'est pas dans une situation et un cadre, avec le MMA aujourd'hui, où on peut se dire qu'en fait, c'est peut-être pas le seul objectif au bout de la route, l'UFC. Et qu'on peut faire toute une carrière, une belle carrière, où on est populaire, où on remplit des salles, où on se fait plaisir à combattre, mais c'est pas sous l'égide de l'UFC.
Bah,
ce qui n'est pas une critique de l'UFC où ça restera les meilleurs.
Non,
mais
non,
en fait, t'as un autre chemin dans ce pays-là.
Mais il y a des combattants qui le montrent. C'est-à-dire que des combattants qui le montrent, qui sont plus jeunes que moi même, et qui montre et qui ouvre cette voie. Donc parfois on suit beaucoup les chemins laissés par les anciens, mais il y a aussi des chemins qui s'ouvrent par les plus récents, par les plus jeunes. Et en fait, t'as plusieurs combattants aujourd'hui qui le montrent. Que
c'est marrant
c'est
parce
pas
que
une fin...
t'as cité Baki tout à l'heure.
Oui, j'ai cité Baki.
Qui à un moment était en mode UFC ou rien, et où tu sens qu'il a basculé et qu'il s'est dit il y a peut-être d'autres façons de le faire.
Après, Baki, pour le coup, lui,
et l'UFC viendra peut-être plus tard.
Est vraiment jeune et peut-être que ça viendra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois les jeunes qui arrivent et qui font leur truc, parfois tu te remets en question, quoi. Tu te poses des questions. Et c'est normal de se remettre en question parce que sinon, ça veut dire que tu es comme ça dans un truc et tu penses que tu as la science infuse et la vérité. Et donc, en fait, tu te dis, il y a une évolution. C'est comme dans tous les milieux. Parfois, l'évolution, elle arrive souvent par la jeunesse qui arrive dans le truc. Et en fait, tu commences à te poser des questions aussi et à te remettre en question sur est-ce que tu ne fais pas fausse route ? Bien sûr. C'est-à-dire que si tout le monde était dans ce truc de c'est l'UFC ou rien, du coup, tu restes dans c'est l'UFC ou rien parce que c'est la tendance qui est dictée. Mais là, tu commences à avoir de plus en plus de petits jeunes qui arrivent et qui commencent un peu à relativiser sur cette vision-là. En tout cas, à court et moyen terme. Et donc, tu commences à te dire, est-ce que tu fais pas fausse route, quoi ? Donc, bien sûr.
Tu sais, je peux entendre les deux. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux être main event dans une belle salle d'un événement du KSW ou du PFL, avec toute la lumière sur toi, ou d'être sixième combat sur la carte à l'Apex ?
Sixième. demande à...
Et pourtant, le challenge sportif là-bas est plus grand. Cracher ou être toujours en mode négatif.
On l'a dit toute l'émission. On est parti sur autre chose, sur les critiques. Attention à ne pas retenir de cette émission-là qu'on est en train de... Non, c'est pas ça le truc.
Ouais,
on sait
c'est tous ça.
Que le niveau est le plus important.
Je veux vraiment pas qu'on se dise ils sont posés à 3, ils sont à charge sur le
UFC. T'as vu, on met de la nuance depuis tout à l'heure.
C'est un rageux parce que c'est vraiment...
C'est pas le cas, c'est parce qu'il faut expliquer ce qui se passe.
C'est vraiment pas le cas, mais c'est juste qu'il faut...
Si Taylor re-signe à l'UFC dans quelques semaines parce que la proposition t'intéresse et que tu veux y aller, on sera très content et on sera ravis
d'être
derrière toi.
Le problème, c'est qu'il faut expliquer le mécanisme plutôt parce qu'en fait, on est parti d'un constat simple. C'est qu'il y a eu un message sur Twitter et c'est parti en cacahuète. C'est pour ça qu'il fallait apporter de la nuance et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour expliquer pourquoi, certes, c'est la Champions League. Certes, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, on parle en mars 2025. L'UFC, c'est là où tu veux être si tu veux combattre les meilleurs. La première chose que je vais dire, Alex, c'est pour répondre à ta question, c'est que demande à Parnas et Varela si c'était pas mieux d'être en main event à Paname avec Deschamps Paris-Marseille, littéralement, sachant qu'on a le Classico, je crois, ce week-end en plus. Mais vraiment, on a eu une ambiance, c'était quasiment un match de foot, tu vois, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'ils étaient très contents d'avoir fait ça et ceux qui ont vécu l'event aussi. Maintenant aussi, moi, la deuxième partie de mon propos, c'est que là où Taylor il a raison, c'est que les jeunes, et il faut leur donner leur crédit à ces gars-là, parce qu'ils font quelque chose en étant un peu pionnier, qui est rejeté du public. On va pas oublier que Saladin Parnas, aujourd'hui, ce qu'il fait, le choix qu'il a fait, il est rejeté du public. Parce que moi, je vois, quand il tweet un truc, tu vas avoir 20 réponses de « moi je suis descendu du train parce que de toute façon t'as pas voulu aller affronter les meilleurs ». Mais ça va évoluer,
peu
comme pour tout.
De quoi ils parlent d'ailleurs, ils reviennent toujours à ça.
Faut être patient, ça va évoluer, comme pour tout. Parce qu'un autre event comme ils ont fait KSW à Paris, puis un troisième, et tu verras que les gens vont se dire « mais en fin de compte, c'est quand même bien ». Et puis les combats sont spectaculaires, ils sont sympas, et puis les mecs qui sortent du KSW, ils performent. Dricus Duplessis, c'est un champion du KSW. Faut pas oublier ces mecs-là, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que le niveau, il est là. Maintenant, il faut pouvoir aussi continuer à le vendre. Pendant ce temps-là, et on en parlait la semaine dernière, tu as un UFC qui est en mal de stars, qui n'a pas besoin de stars, puisque son modèle économique aujourd'hui, il fonctionne avec des montants télévisés historiques, qui fait qu'en termes financiers, ils vont l'avoir cet argent, ils n'ont pas besoin de stars. En tout cas, c'est ce que, sur le papier, c'est ce que ça montre. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des stars qui terminent, on a la catégorie 70 kg par exemple, où les mecs ils ont tous 36-37 ans. Tu vas avoir des champions qui sont quand même relativement âgés. Et je crois qu'on n'a jamais eu autant de champions aussi âgés que ça dans l'histoire. Il faudrait regarder en tout cas, c'est important. Et que derrière toute cette génération-là, tu vas la remplacer par des gars qui arrivent du Dana White Contender Series et qui montent, etc. Que le niveau il va être différent, peut-être moindre. Et avec moins de stars, ben moi, la question elle va se poser. Parce que tu vas avoir ce roster-là, et puis tu vas avoir une autre organisation qui va peut-être tabler sur ce que faisait l'UFC il y a 10 ans. Où eux vont se dire, non, nous, on veut essayer de développer des stars, justement. Et là, la question se posera. Encore une fois, on est un peu trop tôt. Taylor, il est trop tôt, les jeunes, ils sont trop tôt. C'est comme ça.
Tu sais que même, on aura peut-être bientôt deux champions à l'UFC qui étaient champions en même temps à l'EFC.
Ouais,
en Afrique du Sud, puisque Duplessis et Manon Fiorot étaient champions en même temps. Ils étaient sur une même carte même pour défendre leur titre. C'est possible qu'ils soient champions.
Tu vois, c'est tout ça. Pour dire, tout évolue, le sport il évolue. Et aujourd'hui, Taylor il est dans une position, il fera son choix en son âme et conscience avec les propositions qu'il aura. Mais il est dans une position en tout cas où il a le choix. Est-ce qu'on doit se réjouir ou ne pas se réjouir d'un gars qui a le choix?
Complètement différent d'ailleurs en fait, Taylor, je t'ai pas posé ça depuis le début. Par rapport à la frustration que tu as eue après ton premier run. On en avait parlé plusieurs fois dans le Fighter Club. Tu disais, je comprends même pas pourquoi j'avais été dégagé. Là, tu es beaucoup plus serein par rapport à tout ça.
Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein de choses qui parlent pour moi. Tu vois, je suis en forme, je suis dans un bon moment de ma carrière. Encore une fois, le classement mondial, il parle pour moi. Les performances, elles parlent pour moi. Mon record, il parle pour moi. On a de la visibilité sur ce que je sais faire, etc. Donc aujourd'hui, si tu veux, je prends les choses avec un regard qui n'a absolument rien à voir. Là, j'ai le choix. J'ai le choix de faire ce que je veux. J'ai le choix de pouvoir aller combattre où je veux. J'ai le choix de dire, OK, je veux bien venir. Mais je veux tant de combats garantis, je veux ça, je veux, enfin, je peux dire je veux, tu vois. donc
au lieu de je prends, c'est
ouais. et ça c'est une différence qui est notable et que j'apprécie. Après voilà, comme je maintiens, actuellement j'ai signé nulle part. Forcément il y a de la spéculation qui se fait, forcément il y a des gens qui spéculent aujourd'hui et qui ont raison, c'est-à-dire que je vais bien signer quelque part et je vais pas signer dans je ne sais quelle organisation au fin fond de je ne sais où, tu vois. Donc je vais signer dans une ligue majeure. Donc ceux qui disent je vous avais dit il allait signer là-bas, il y a un risque que effectivement,
parce que, soyons clairs, ces derniers jours il y a eu aussi des posts sur les réseaux où les gens t'annonçaient c'est fait, il est ici là-bas,
voilà,
il signe là-bas. Tout était faux pour l'instant.
C'est fait, nous, okay. Pour le moment tout est faux. Maintenant, peut-être que dans le futur, ils auront raison.
Oui, bah tu vois, c'est pas ça.
Parce qu'il faut bien que
je template. Hein, genre,
tu vois, faut bien. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est tous les trois. Moi, je peux dire. Lui, il peut dire KSW. Voilà, toi, tu dis UFC. Moi, je dis PFL.
Et on sort l'extrait qui est bon dans.
Et
dans
on
deux
sort
mois.
Celui qui a dit le bon truc. Voilà, dans deux mois, on sort celui qui a dit le bon truc en disant je vous l'avais dit. Tu vois, donc.
T'as une date dans ta tête où tu veux avoir décidé? T'as un truc où tu t'es dit là à ce moment-là, j'ai fait mon choix.
Ouais, j'ai une date de décision et j'ai même une date de compétition où je veux revenir.
Ok.
Tu vois.
Un ordre d'idée, tu peux nous donner?
Si je vous dis, ça va vous aiguiller. Donc, tu vois.
C'est,
du
sûr,
coup,
c'est sûr que si tu me dis Lyon le 10 mai, bon.
Non, mais si je vous dis.
Le KSW sera à Lyon le 10 mai.
Moi, j'allais dire, tu me surestimes. Moi, j'allais dire, perso, tu me surestimes. Je suis incapable de te dire c'est quoi les événements dans les semaines. Non,
bah écoute, en tout cas, voilà, j'ai des dates en tête. C'est-à-dire que j'ai un plan bien précis en tête. J'ai des possibilités en tête. Forcément, les options, option A, option B, option C. Et voilà. Et là, on voit, encore une fois, comme je te dis, je discute beaucoup avec mon équipe, avec ma famille. On fait le point sur qu'est-ce qui est le mieux, tu vois. On n'est pas toujours d'accord,
Parce que bah forcément, t'en as qui disent ouais. Ben non, c'est l'UFC, il faut être fou, il faut rester à l'UFC. T'en as d'autres qui disent non, là, faut aller faire de l'oseille, non, là, faut truc. Donc, du coup, voilà, on a tous des choix.
Mais c'est toi qui as le choix final.
Différent. Ouais. Mais voilà, le choix final, ce sera moi et je ferai le mieux. En tout cas, j'essaierai de choisir de mon mieux. Voilà.
Les orgas là, qui t'ont contacté, elles sont venues dès la fin de ton contrat en septembre ou elles sont venues quand elles ont vu tout ce qui se passait sur les réseaux ces derniers jours?
Alors, tu as une partie qui est venue dès fin septembre, octobre plutôt, ouais, même. Et tu as une autre partie qui est venue par exemple, j'ai été approché par le Rising. Bah, okay. Ça, c'était
dès que
la news est sortie, tu vois.
C'est bien, les mecs suivent Roster Watch pour savoir quel move ils doivent
faire. Et c'est automatiquement mon choix préféré. Du coup, là,
t'as dit quoi?
Rising, Japon. Oui.
Je t'avoue que nous, ça nous parle pas mal. Ouais,
moi j'aime bien aussi. Après, c'est une organisation différente.
Ah, c'est un autre choix total. Ouais.
C'est très différent de ce que je connais jusque-là.
Ouais. Mais ton esprit est ouvert jusqu'à des possibilités comme
ouais,
ça.
Bah ouais. Après, moi je suis un fan du Pride et tout, tu vois. Donc, en vrai, du coup, Saitama Arena et tout, la digue de Van der Lek qui commence, les trucs. Enfin, tu vois,
c'est quelque chose.
Non, mais on va être clair, Taylor. Un combat un 31 décembre à la Saitama Arena, tu te prendrais des souvenirs dans la tête pour la vie. Hein.
Et tu sais, c'est aussi pour ça que je fais ce sport, finalement. Ouais. Pour aussi le chemin et le voyage qu'on fait.
Tu l'as toujours dit, ça.
Qu'on fait jusque-là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit, effectivement. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ça. Je suis fan de MMA avant toute chose. Et donc, forcément, bon, bah, y a, encore une fois, y a, comme je le répète, il n'y a pas que le financier qui est en jeu. Il y a aussi qu'est-ce qui va se passer, le challenge sportif, l'histoire qu'on va continuer d'écrire. Et est-ce que c'est cohérent aussi avec la suite de ma carrière?
Dans quel cadre tu vas combattre, les kiffs que tu peux te faire, c'est normal.
Exactement.
T'as vu quand même qu'il y a même des champions d'organisation? Je pense à Sébastien Prisby, c'était au KSW, des champions de ta catégorie, qui font carrément agent pour leur regard avec des call-outs sur Taylor, sur Twitter, pour dire, viens chez nous.
Effectivement, il m'a call-out. J'ai vu passer.
Il voulait que tu viennes le prendre chez lui, à Gdansk, sa ville.
Pourquoi je ferais ça alors qu'il y a un événement en France juste avant? Ça n'a pas de sens.
Non, ça c'est clair.
Donc, pourquoi je ferais un truc comme ça?
Mais ça m'a fait marrer de voir un champion qui était agent, tu vois, qui représente son regard.
Non, après, lui, il se dit, ok, ça peut être un bon nom à accrocher sur son palmarès, donc pourquoi pas, tu vois. Après, voilà, c'est toujours pareil, faut gagner, quoi, tu vois. Faut pas juste demander le fight, faut le gagner. Mais oui, lui, il se dit, c'est un bon nom, pourquoi pas essayer de l'accrocher à mon palmarès, tu vois. Après, moi, pour le moment, j'ai pas répondu pour la simple unique raison que rien ne dit que je vais devenir combattant du KSW. Donc je vais pas me chauffer avec un mec sur les réseaux.
Merci de pas faire ça. Tu vois, on n'en peut plus des embrouilles inter-organisation où tu sais que le combat il se fera jamais.
Tu vois, ça se trouve, j'ai parlé avec lui et truc. Ouais, non, moi je suis chaud. Alors après, elle a été très respectueuse dans son call-out. Hein,
ouais, clairement.
Tu vois. Mais lui dire, ouais, moi je suis chaud, ouais, truc. Et si ça se trouve, je vais jamais signer là-bas, tu vois. Donc,
t'as raison.
Ça n'avait pas de sens, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, je n'ai pas répondu. Si maintenant, demain, je signe au KSW, je vais reprendre son tweet.
On va en reparler.
Et on va répondre, forcément, tu vois. Mais là, ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je sais même pas où est-ce que je vais atterrir. Donc, t'imagines, je parlais avec le gars du KSW, ensuite, je parlais avec celui du PFL, ensuite, je me prends la tête avec le mec de, je sais pas, j'en finis plus, tu vois.
Donc, en japonais, avec les mecs du Rising, tranquille.
Je parlais avec celui du Rising en japonais, et je lui dis, j'arrive.
Community manager dans
dis-moi oui ou non, si je dis que dans un mois, on saura où t'es.
On saura.
C'est pour les spectateurs, je sais qu'il y en avait beaucoup qui attendaient des news.
Oui, on saura
où t'étais. Et ma dernière, et Baba, si t'as une autre question après, je te redonnerai la parole, mais... Si ça se refait pas avec l'UFC, que tu re-signes pas avec l'UFC, ça reste une possibilité, mais on t'a entendu toute cette émission, t'auras des regrets?
Oui et non. Non, parce que je pense que j'aurais fait tout ce que je pouvais et que parfois, faire tout ce que tu peux, ça dépend pas que de toi, donc faire tout ce que tu peux, ça suffit pas. Donc, pas de regrets là-dessus. Mais et oui, parce que y a des combattants que j'aurais kiffé affronter quand même, tu vois.
Genre, bon, là maintenant il est parti à la retraite, mais Dominic Cruz,
bien sûr.
J'aurais vraiment kiffé l'affronter et tout, tu vois. Donc, il y a 2-3 noms comme ça que j'aurais kiffé affronter et que je sais que je ne croiserais pas ailleurs qu'à l'UFC, tu vois. Donc, voilà, c'est le seul truc.
Excuse-moi, mais vu les noms qu'ils lui mettent en face pour sa tournée d'adieu. J'aurais kiffé qu'ils prennent José Aldo. Vu les noms qu'ils mettent en face d'Aldo, je veux dire, c'était.
Justement, quand tu vois les oppositions qu'on donne à Aldo récemment, tu te dis en vrai, j'ai ma place, quoi. Pour pouvoir l'affronter. Donc en vrai, voilà, il y a des noms comme ça. Bah tiens, tu t'en cites un, José Aldo, que je sais que je croiserai pas ailleurs. Tu vois. Donc du coup. Oui, ça c'est mon regret, c'est de dire que ces mecs-là, je les croiserai probablement pas. Mais d'un autre côté, pas de regret. Franchement, encore une fois, j'ai la tête froide, j'ai la tête sur les épaules. J'ai, avec chance, acquis une certaine maturité avec le temps sur ma carrière, sur moi-même également. Et donc, du coup, voilà, si je fais le choix de signer ailleurs, il n'y aura pas de regret par la suite. Ouais. Ce sera OK, j'ai fait ça et je pense que ce sera le meilleur choix pour moi.
Après, on te citait le 10 mai à Lyon. Après, tu fais ce que tu veux. Hein, mais tu sais que ce soir-là, il y a une petite ceinture qui se joue du côté de Montréal. Donc, on sera content si tu es au commentaire aussi ce soir-là, plutôt. Pour Manon Fiorot, bien sûr. Tu avais une dernière question, Baba?
Ouais, je suis obligé parce que j'ai toute une communauté qui est avec moi tous les vendredis après-midi, Taylor, et qui est avec toi une fois par mois la nuit sur les Fight Night. C'est la communauté du One, d'RMC Sport. Ils sont là, ils sont forts. Et ils m'ont demandé, donc je te demande, en plus tu viens du Muay, moi je viens du Muay Thai comme tu le sais, et une organisation qui propose du Muay Thai, du kickboxing, du MMA et même du grappling.
Ouais, le One.
Est-ce qu'elle t'intéresserait cette organisation?
Écoute, on s'est posé la question.
Ouais.
On s'est posé la question.
Ça peut être fun.
Le One est arrivé dans les discussions avec Ali. Après... Franchement, c'est déjà pas facile avec ce qu'il y a aujourd'hui. Alors si tu en rajoutes encore des trucs, tu vois. Mais après le truc, c'est plus le poids, la politique qu'ils ont sur le poids. Et moi, je coupe quand même pas mal de poids.
Ça voudrait dire monter de catégorie, si
ça voudrait dire monter de changer de catégorie, ou alors changer beaucoup de choses, tu vois.
Ouais, okay.
Donc et ça sera un problème clairement pour moi, quoi. Tu vois, si je fais un camp, un cut, et qu'on me dit non, c'est pas possible parce que t'es trop déshydraté, c'est un peu relou, tu vois. Donc sachant les cuts que je fais pour le moment. Je suis pas sûr que j'ai beaucoup de enfin que ce soit une organisation qui soit bien pour moi. Et le problème du One aussi, c'est que sur la partie Muay Thai, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pour moi tous les meilleurs ou pas loin. Mais la partie MMA, on la connaît pas.
Il manque pas mal de monde,
tu vois. C'est-à-dire que les bantams du One, je sais pas qui c'est, tu vois.
Ouais.
Et si je sais pas qui c'est un peu inquiétant, tu vois, parce que normalement je devrais savoir qui c'est Magaté, et c'est mon boulot de les commenter et tout, tu vois.
Le MMA est un peu mis au milieu des autres combats, enfin c'est parfois, donc c'est pas la priorité.
Si je faisais du Muay, ça serait comme l'UFC pour moi, clairement, mais là aujourd'hui en MMA, c'est pas forcément l'organisation qui, je pense, est la plus intéressante pour moi, tu vois.
Merci beaucoup, Taylor, pour cette présence. On n'avait rien à vous annoncer parce qu'il n'avait rien à vous annoncer, que la décision n'est pas prise.
J'ai essayé d'être le plus clair possible sur la situation.
Je pense que tu l'as été.
À des moments.
En tout cas, quand ce sera annoncé, saura où tu as signé, on comprendra mieux aussi avec toutes ces explications quel a été ton cheminement. Et je pense que c'était cool et important de voir tout ça. En tout cas, vous retrouverez toujours Taylor aux commentaires sur RMC Sport tous les week-ends. Soyez fidèles parce qu'il est là, lui aussi. Et il ne bouge pas pour l'instant. On le garde avec nous, ça c'est clair. Merci, Baba, aussi pour la présence. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. À très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut Taylor, salut Baba,
salut les gars,
tout le monde. Ciao.
RMC Fighters Club.